France Musique. Grand large, Corinne Schneider.
Rien qu'un paysage de boue. À 1 ou 2 kilomètres de la rive malodorante du Huangpu, un gros bourg chinois presque inconnu, sans noble origine, sans grand mandarin, sans passé, qui porte le nom banal de Shanghai, signifiant « en amont de la mer ». Shanghai, qui aurait deviné que ce lieu sordide allait devenir l'une des plus grandes métropoles du monde ? Lucien Bodard. Quand la grande histoire rejoint la légende et quand la politique s'empare des mythes et des symboles, ce sont les grands récits et les épopées mythiques qui nous intéressent aujourd'hui dans ce 3e épisode de Shanghai 1930, à l'écoute du grand chant du fleuve jaune et des amants papillons.
Hey!
Chen Xinhai est à n'en pas douter le compositeur chinois le plus célèbre de la première moitié du XXe siècle. Né à Macao et élevé à Singapour, il perfectionne son apprentissage du violon et du piano à l'extrême fin des années 20 au conservatoire de Shanghai. Au début des années 1930, il s'installe à Paris où il est l'élève de Vincent d'Indy en composition ainsi que de Paul Dukas. Chen Xinhai est en effet le premier musicien chinois admis au conservatoire de Paris. Lorsqu'il rentre en Chine en 1935, les Japonais ont occupé le nord-est du pays. Tout au long de la guerre sino-japonaise qui s'étend de 1937 à 1945, Chen Xinhai prend part à des activités patriotiques en composant des chants d'opposition clairement anti-japonais. À partir du poème patriotique de Guang Weijian et de mélodies traditionnelles, il compose l'œuvre qui fait aujourd'hui encore sa renommée, le grand chant du fleuve jaune, une cantate en 8 mouvements dans laquelle le fleuve jaune incarne le symbole du défi chinois contre les envahisseurs japonais. Première version du grand chant du fleuve jaune est composée par Chen Xinhai pour instrument traditionnel chinois. Le jour de la création de l'œuvre à Yan'an, le 13 avril 1939, Mao Zedong, qui était alors l'un des leaders de la résistance anti-japonaise étaient présents dans la salle. Après la mort du compositeur, quelques-uns de ses élèves réalisent l'arrangement que nous venons d'entendre pour l'Orchestre symphonique de Shanghai. Pendant la révolution culturelle de 1966 à 1976, Zhang Xin, l'épouse de Mao Tse-tung, commanda au virtuose Yin Changzong et à toute une clique de compositeurs officiels l'arrangement de cette cantate en un concerto pour piano. Dans le mouvement final, les musiciens incorporent la fameuse mélodie Dong Fang Rong, l'Orient Rouge, le chant révolutionnaire chinois qui était devenu l'hymne national de la République populaire de Chine durant la révolution culturelle. Transformé en concerto avec Yin Changzong, le chant du fleuve jaune de Chen Xinghai devint ainsi le véritable étendard musical de la politique de Mao Tse-tung. Thank you. Et oui, c'est bien le thème de l'international avec celui de l'Orient Rouge qui sont venus se glisser dans le final du concerto du Fleuve Jaune, créé en 1969 en pleine révolution culturelle par Yin Changzong, une œuvre que le pianiste chinois a lui-même interprétée à partir des années 1980 dans les grandes salles de concerts occidentales, véhiculant ainsi aux oreilles du monde un pan entier de l'histoire chinoise. Et nous écoutions l'interprétation de Lang Lang enregistré en 2006 pour la Deutsche Grammophon avec l'Orchestre Philharmonique de Chine sous la direction de Yu Long.
C'est l'été sur France Musique. Grand large, Corinne Schneider.
Je vous propose d'écouter à présent dans son intégralité l'œuvre chinoise la plus emblématique du XXe siècle, composée par deux musiciens nés au début des années 1930, Gang Chen et He Zhanghao, tandis qu'ils étaient étudiants au conservatoire de Shanghai à la fin des années 1950. Il s'agit d'un concerto pour violon et orchestre dont la forme musicale suit la narration d'une légende très célèbre en Chine, la romance de Liang Shan et de Zhu Intai ou les amants papillons. L'histoire remonte à l'époque de la dynastie orientale des Qin. Ju In-tae est intelligente et aimerait s'instruire, mais elle est une fille et l'école lui est interdite. Plutôt que de rester à la maison, elle se déguise en garçon pour accéder au savoir. À l'école, elle rencontre Liang Shanbo. Ils ressentent une forte affinité l'un envers l'autre et deviennent les deux meilleurs amis du monde. L'adolescente tombe peu à peu amoureuse de Shanbo, qui, omnubilée par ses études, ne s'aperçoit pas que l'ami grandissant à ses côtés est en réalité une fille. Après plusieurs années, In-tae est rappelée auprès de sa famille. Avant de quitter l'école, elle fait promettre à Shanbo de venir lui rendre visite, ce qu'il fait. Et là, il découvre qu'elle est une femme. Leur amour peut enfin s'exprimer librement. Ils font vœu de s'aimer pour toujours jusqu'à ce que la mort les sépare. Au moment où Shanbo demande la main de In-tae, il apprend que ses parents ont déjà arrangé le mariage de leur fille. Brisé, Shanbo se laisse mourir et s'éteint bientôt. Le jour de son mariage, en se rendant chez son futur mari, In-tae passe devant la tombe de Shanbo et s'effondre de désespoir. Une mystérieuse tempête éclate alors, empêchant la procession de poursuivre sa route. Soudain, le sol se déchire dans un fracas de tonnerre et devant la stupeur de tous, In-tae se jette dans le trou béant pour rejoindre Shanbo. Deux papillons apparaissent alors, s'envolant de la tombe et virevoltant dans les airs vers le ciel. Pour suivre cette histoire en musique qui dure près de 30 minutes, sachez que le violon symbolise la jeune femme, In-tae, tandis que le violoncelle répondant depuis l'orchestre représente le jeune homme Shanbo.
Thank you. Thank you. Thank you.
Nous écoutions Les Amants Papillons, le célèbre concerto pour violon et orchestre de Gang Chen et He John Hao, composé à partir de la romance de Liang Shanbo et Zhu Yintai. C'est la violoniste chinoise Yu Lina qui a fait la célébrité de ce concerto après l'avoir créé à Shanghai en 1959 à l'âge de 19 ans, en intégrant dans son interprétation des techniques de jeu comme les glissandi propres aux instruments à cordes chinois. Nous écoutions la version enregistrée par la violoniste japonaise Takako Nishizaki en 1992 avec l'orchestre symphonique du conservatoire de Shanghai sous la direction de Fan Changwu. Troisième épisode de Shanghai 1930, une série produite par Corinne Schneider et réalisée par Christine Amado, avec la collaboration de Clara Nouvelle et Maude Nourry pour la documentation, et avec, au son et au mixage, Claude Nior et Paloma Fougère. Demain, dans le quatrième épisode, il sera question de l'émigration russe et des musiciens juifs réfugiés à Shanghai. À réécouter sur francemusique.fr.